Je vais demander à Paul de venir. Est-ce qu'on peut l'applaudir et puis lui donner ce big hug? Merci, Paul. Merci pour tout ce que tu as fait.
Wow! Vous saviez que Philippe, c'est un champion. C'est un homme d'honneur. C'est un homme avec un sens d'humour incroyable. C'est l'associé de Robert Baxter et Catherine. Et ils travaillent ensemble. Et je voulais juste souligner qu'il y a toujours des héros dans quelque chose qui commence. Robert et Catherine, c'était vraiment les gens qui ont eu le désir d'amener l'équipe ici. C'est vraiment Philippe qui a pris beaucoup de ce fardeau-là pour l'établir à Dijon. Et maintenant l'amener à Paris et dans notre culture, notre église, parce que nous autres, on développe notre propre culture. Je veux pas avoir la culture de Las Vegas. Je veux pas être conformé à ma société. Je veux changer notre société. Romains 12, soyez pas conformés à la société, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le mot renouvellement, ça veut dire métamorphosis, c'est le mot grec. Métamorphose. C'est le temps d'être changé par nos pensées. Et chez nous, à Las Vegas et dans notre ministère, on aime ça célébrer les gens, les honorer. Alors, Philippe, vraiment, est-ce que tu peux te lever? Et Robert et Catherine aussi, levez-vous s'il vous plaît. J'aimerais juste vous célébrer maintenant et dire, on vous aime et on va chanter, on va célébrer. Et on va chanter une chanson à Philippe parce que c'est lui qui me conduit partout. Il me ramasse aux stations de train, on prend les trains ensemble puis on l'aime tellement. On va chanter une chanson qu'on chante beaucoup au Québec. Mon cher Philippe, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Philippe, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. On y va tous ensemble. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Et maintenant, le fait que la personne était à côté de toi, ça veut dire que c'est quelqu'un de très intelligent, très doué, parce qu'ils ont sacrifié un vendredi pour être ici, pour être formés. Alors, ils doivent être très intelligents. Alors, on aimerait aussi les honorer. Alors, regarde la personne qui était à côté de toi et dites-leur, ma chère ou mon cher, ma chère, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour, mon cher, ma chère Julie. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ready? La 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 la. Vous chantez mieux que Dijon. Il y a quelqu'un qui dit qu'il aimait le fait que je riais à mes propres blagues. J'aime ça rire. Alors, la vie est dure. Être un pasteur et un leader, c'est pas facile. Donc, on doit trouver beaucoup, beaucoup de joie. Philippiens chapitre 4, verset 4 à 7. Paul a dit, réjouissez-vous. Et je le répète, toujours. Pas seulement quand les choses vont bien. Toujours. Quand il y a des gens qui me disent, Paul, je pense que quand tu as demandé quelque chose, la joie de vivre à Dieu, il t'a donné une double portion. Et je le crois vraiment. Souvent, je rentre dans l'office à l'église, j'y dis, est-ce qu'on s'amuse aujourd'hui? Parce que souvent, les chrétiens sont tellement sérieux, on se prend tellement au sérieux et on s'amuse pas, on rit pas. L'autre jour, je parlais à Philippe, lui, il essaie de toujours, parce que j'ai une équipe, moi, je suis pas très bon dans les détails, alors j'ai une équipe qui prend très bien soin de moi et des amis qui prennent soin de moi. Alors, il me dit, OK, Paul, c'est garde Lyon, il faut que tu sois là à cette heure-ci, j'ai acheté tes billets, da-da-da, je vais être là pour te montrer où aller. Parce que quand tu fais des choses qui sont pas mal nouveaux pour moi, il y a un peu de stress. Alors, il a tout pris soin des choses. Alors, je suis là au garde Lyon et je dis, hey, Philippe, comment ça va, mon ami? Il dit, ça va bien. Il dit, OK. J'ai dit, je suis ici au Gare de l'Est. Il dit, quoi? Oui, oui, Gare de l'Est. Il dit, non, Gare de Lyon. J'ai dit, non, tu as dit Gare de l'Est. Il commence à le perdre la boule. Tu voyais un peu stressé. Alors, j'aime ça. Et j'ai appris que c'est pas des blagues, j'aime ça plaisanter. C'est très distingué, ça, plaisanter. En bon québécois, on dit taquiner. Parce que Joël, quand il parle, c'est un vrai Québécois. Moi, je suis un Québécois manqué. Mais lui, c'est un Québécois. Alors, vous entendez, vous avez écouté des termes. Hein, le premier, je peux vous conter une histoire. C'est pas pour. Il n'y a pas de vidéo ici. Hein? OK, est-ce que vous pouvez fermer votre vidéo pour juste pour deux secondes? Juste, fais-moi une faveur, juste pour deux secondes. Sinon, je peux pas conter l'histoire. On a fait des erreurs. Parce que je souvent fais des erreurs, comme j'ai expliqué l'erreur que j'ai faite aux Indes avec les sœurs. Et. Joël, le premier, on était à Clamart. Il prêchait à Clamart une conférence Saint-Esprit et il voulait dire que sa femme était très belle. Alors, souvent, il y a des termes au Québec qui ne marchent pas ici en France. Alors, il a dit, ma femme, c'est une vraiment belle pétard. Il me regarde maintenant. Alors, on a fait des erreurs. Moi aussi, j'ai fait des erreurs en français. Et alors, vous avez déjà, vous nous pardonnez. On aime ça s'amuser. On aime ça rire. Parce que j'ai remarqué que je suis de bonne humeur, les gens veulent être autour de moi. Si je rentre dans l'église tous les dimanches et mercredi soir et dimanche soir, les gens veulent être proches de moi parce que j'ai beaucoup de joie. Paul a dit, réjouissez-vous toujours. Toujours. Vous dites, Paul, est-ce que tu es toujours joyeux? J'étais pas joyeux quand ma fille a eu le cancer. À l'âge de 18 ans, Isabelle a eu le cancer. Ma fille Christine a commencé à l'âge de 7 ans, avoir des crises d'épilepsie et Samuel a eu une maladie qui s'appelle Guillain-Barré. Je te dis, durant ces temps-là, j'étais pas heureux. Jusqu'à temps. Alors, le normal pour Paul, c'est la joie, c'est la paix. Il dit, je vais mettre un joug sur toi, mais c'est un joug qui est pas pesant. Mais souvent, comme pasteur et leader, on crée notre propre joug. Et c'est pesant, et c'est dur, et on essaie de plaire à tout le monde. Et qu'est-ce que, vraiment, si je peux vous laisser quelque chose et j'ai hâte de, moi, j'ai déjà décidé de passer 3 ans avec vous. Alors, on va grandir ensemble. Et comme une chose que je m'attendais pas, c'est à Dijon. Vraiment, au début, je venais simplement par obéissance. Mais maintenant, j'attends d'aller à Dijon pour voir mes amis. Et il y a des pasteurs africains, des pasteurs d'espagnol, des pasteurs francophones. Il y a toutes sortes de personnes à Dijon. Et j'ai eu la chance de vraiment avoir cette amitié-là avec les gens comme Philippe et les autres. Et ça me donne beaucoup de joie. C'est pour ça que Paul a dit en Romains 1:11. Il dit, hey les Romains, j'ai hâte de vous voir parce que je veux communiquer des dons spirituels. Le mot communiquer, c'est un mot utilisé seulement une fois dans le grec, dans le Nouveau Testament. C'est le mot « metadidomai ». Si vous êtes, si vous aimez étudier la parole, écrivez le mot « metadidomai ». Romains 1:11. Ça veut dire « je vais transférer ou vous donner quelque chose que j'en ai beaucoup ». Voulant dire, j'ai 5 manteaux, je t'en donne 3. J'ai 2 chemises, je t'en donne une. Paul disait, je veux transférer, je veux communiquer, je veux donner qu'est-ce que le Seigneur m'a donné. Il avait tellement de confiance dans qu'est-ce qui était dans lui. Pierre a dit, qu'est-ce que j'ai? Je te le donne. Dans le nom de Jésus, lève-toi. Il faut, hommes et femmes de Dieu, de savoir qu'est-ce que le Seigneur a mis dans toi. Alors, avant de partir aujourd'hui, est-ce qu'on peut simplement décider, oui, le Seigneur a mis quelque chose dans moi durant ces 2 jours-ci? J'ai reçu quelque chose de plus. Révélation, onction, amour. Et est-ce qu'on peut vraiment décider du fait qu'on va sortir d'ici avec un autre, vraiment, cette manteau de leadership que le Seigneur veut nous développer? Et je continue, j'ai 53 ans et je continue ce processus de leadership et je veux toujours grandir. Les gens souvent me disent, quel livre que tu lis? Actuellement, pour dire la vérité, je lis le livre qui s'appelle « Les 7 étapes d'une vie chrétienne épanouie ». Ça vient juste de sortir la semaine passée. Et l'auteur, c'est un nommé Paul Goulet, c'est un de mes amis. Donc, actuellement, j'étais en transition. Ça, c'est le livre pour les gens qui veulent vraiment bien gérer le chapitre 6. C'est regarder votre futur et créer des plans pour aller de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3:18. On veut aller de gloire en gloire dans notre vie. On veut pas être barré ou on veut pas être arrêté. Alors, le Seigneur m'a donné ce livre-là il y a peut-être 2-3 ans en anglais, 4 ans peut-être. Et à peu près 6 mois, je cherchais la volonté de Dieu et j'ai pris le livre et j'ai commencé à le lire encore. J'ai dit, c'est-tu drôle que le Seigneur m'a donné cette révélation et maintenant c'est bon pour moi, maintenant en transition. Je vais partager le fait que j'ai un plan pour les prochains 10 ans. J'ai 53 ans. J'ai un plan de transférer tout le ministère à des jeunes Élysée. J'ai un plan de 10 ans. Ça va prendre 10 ans pour vraiment bien faire. Je veux aussi illimité, avec l'aide de Dieu, illimité les dettes de l'Église. On a beaucoup de propriétés alentour de Las Vegas. On a, tu sais, des millions et des millions de dollars de propriétés, mais aussi on a des prêts des banques. Et alors, avant que je parte, avant que je fasse ma transition, et quand je fais la transition dans 10 ans, je vais quand même être le grand-papa de ce ministère-là. Je vais voyager parce que vraiment, je suis un missionnaire en fin fond de mon cœur. Mais en point de vue de tous les jours, l'équipe, on a 163 employés maintenant à Las Vegas. Et on a des gens à travers le monde aussi. Mais à Las Vegas, seulement à Las Vegas, 163 gens qui travaillent et on les paye. Alors, gloire à Dieu. OK. Le Seigneur est bon. 7 étapes. Je sais pas s'il y en reste beaucoup, mais ça vient juste, on vient juste les avoir ce matin. Et, en arrière, il y a 2 personnes que j'aimerais remercier. Caroline, qui vient de la France. Est-ce que tu peux te lever? Sœur, ma sœur. Elle était incroyable. On peut l'applaudir. Et Angelo, c'est un jeune de notre école de ministère à Las Vegas. Angelo, stand up. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci, Angelo. Il a seulement 21 ans, mais déjà, c'est un prédicateur. Alors, moi, je cherche mes Élysées. Moi, je cherche les jeunes hommes et ma femme cherche les jeunes femmes de Dieu qui veulent avoir une double portion. Et à cause d'eux, parce que je pense qu'on a tout vendu, hein. Tout ce qui nous reste, sont allés chercher à Clamart les livres qu'on avait là. Alors, les cinq puissances de Dieu, il y en a d'autres. Les gens le cherchaient. Alors, il y en a une coupe d'eau qui reste là. Parcours de le 30 jours, il n'a plus de DVD. Mais qu'est-ce qu'on a? Si on a l'accès sur l'Internet pour 30 jours. Vous dites, mais qu'est-ce qui arrive après 30 jours? Je ne peux plus accéder à ça? Non. Ça, c'est accès pour un an. Tu peux y aller pour un an. Tu peux le regarder les 30 jours pour tous les jours, pour 360 jours, si vous voulez. Alors, ça, c'est l'accès exclusif pour vous. Alors, vous achetez le livre et vous achetez l'accès Internet. Alors, vous aurez l'accès pour vous et même pour votre église si vous avez accès sur l'Internet à l'église. Si vous avez vraiment besoin d'un DVD, parle à Caroline et on va travailler avec Michel Belver et mes amis ici pour faire sûr que vous aurez cette DVD pour votre école de dimanche ou les formations que vous voulez faire. Mais l'accès sur l'Internet fonctionne très, très bien et naturellement, c'est en français. Et il y a une autre chose que je voulais dire, juste pour le fun. J'ai des t-shirts que j'ai amenés, sont 15 euros, mais parce que c'est la dernière fois que je parle, on le vend pour 10 euros. Il y a un rabais. Vous pouvez pas avoir des t-shirts pour 10 euros qui sont comme ça. Ça, c'est « Stop killing the dreamers ». Ça veut dire « Ne tuez pas les rêveurs ». Ça, c'est les enfants dans le c'est ça. C'est les rêveurs, c'est les prochains Michelangelo, c'est les prochains Bill Gates, c'est les prochains Reinhard Bonnke, qui sont dans les ventes des femmes qui pensent peut-être à avorter leurs enfants. Alors, nous autres, on veut déclarer « Ne tuez pas les rêveurs ». L'autre chose, c'est et moi, quand je voyage, j'amène toujours des cadeaux pour mes enfants. Alors ça, c'est, je vous donne une chance de juste bénir vos enfants. Ça, c'est « Love covers a multitude of wrongs ». L'amour couvre une multitude de c'est ça. Et finalement, la dernière, c'est, oh non, il y a une autre, c'est « I believe in revolution ». Je crois dans la révolution. Mais la révolution chrétienne. Alors les gens me demandent, hey, c'est quoi cette révolution? Moi, je crois dans les révolutions chrétiennes. On veut des églises en feu. On veut des chrétiens qui changent le monde. Et l'autre, c'est les femmes aiment beaucoup cela. Love is patient, love is kind. L'amour est patient. C'est 1 Corinthiens 13. En tout cas, c'est des choses qui. Moi, j'aime ça porter des t-shirts parce que les gens me demandent, c'est quoi ça? Là, j'ai la chance de partager ma foi avec eux. Alors, en tout cas, sont toutes en vente pour 10 parce que je veux rien amener sur l'avion. Je veux rien amener. C'est pour ça qu'on vous donne un rêve. Il y a aussi un rabais sur l'accès sur l'Internet aussi. OK, 2 Chroniques, 1-10. Saint-Esprit, on a besoin de ton aide pour finaliser cette cour-là. Et on te remercie pour l'homme de Dieu, John Maxwell, mon ami et notre ami maintenant. Et on prie que tu vas lui bénir, Seigneur, et sa femme, et sa famille, et le ministère qui a commencé. Utilise-le d'une façon qu'il n'a jamais même rêvé. Aussi, Saint-Esprit, je te demande de m'aider à communiquer et de communiquer d'une façon que les gens apprennent et puissent le transférer aux autres. C'est ça qu'on veut, Seigneur. On veut pas additionner des gens à l'Église. On veut multiplier. On veut multiplier, Seigneur, le ministère. On veut aller de gloire en gloire. Alors, je sais que ce chapitre-là, c'est tellement stratégique. Et je te demande, Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour vraiment le bien communiquer. Et on a tout le besoin de l'aide qu'on entend la voix du Saint-Esprit aujourd'hui. Et finalement, Saint-Esprit, Seigneur, je te donne toute la gloire. Je suis ici depuis 16 jours. Et c'était seulement la gloire. Seulement des amitiés très profondes, l'amour, présence de Dieu, la parole. Je prends pas de crédit du tout, Seigneur. Je suis humblé ou humilié par ton amour et ta grâce dans ma vie. Et je te donne toute la gloire. Amen. Wow. Je sens la présence de Dieu. 2 Chroniques 1-10. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Page 37. Accorde-moi, donc maintenant, c'est en haut ici. Est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint aussi, s'il te plaît, si vous l'avez? Hein? Dans 2 minutes. OK, on lit ensemble. Accorde-moi donc. Qui peut gouverner des Français? Nous, quelqu'un dit nous, est-ce qu'on peut dire ensemble? Nous pouvons gouverner les Français. Va dans la puissance et les stratégies et les sagesse que vous avez. C'est ça que le Seigneur vous dit aujourd'hui à travers de sa parole. C'est l'objectif de tout leader de vraiment clairement communiquer la vision de votre ministère et de votre église. Mais moi aussi, j'aimerais vous encourager d'avoir une vision pour ta famille, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Je vous dis déjà que j'ai ma petite Coco qui vit à la maison maintenant. Elle a 15 mois, 16 mois. Et quasiment tous les jours, je danse avec elle et je chante en français. Je lui parle en français toujours. Mais souvent, je lui dis, qu'est-ce que tu vas être quand tu vas être plus grande, ma belle? Vas-tu être une chanteuse? Vas-tu être un pasteur? Vas-tu être un docteur? Vas-tu être le président des États-Unis? Qu'est-ce que tu vas faire, ma belle? Missionnaire. Chérie, je t'aime tellement. Toujours, je pars dans sa tête. Je mets semence de la vérité. Et de pas de niveau, c'est de gloire en gloire. Tu regardes mes deux autres petits-enfants, parce que j'ai pas arrêté avec mes enfants. 29, 24, 22, tous mes trois enfants pensent qu'ils peuvent changer le monde. Isabelle, avec la relation d'aide, 12 conseillers qui travaillent pour elle maintenant, déjà 29. Puis la maman aussi. Christine, 24 ans, c'est un chanteur de louanges incroyable. Toujours, elle est devant 2000 personnes, puis elle a pas de peur. Elle chante, elle touche la vie des gens. Troisièmement, Samuel, 22 ans. Toutes les choses, je vous ai déjà dit. Tous mes enfants sont confiants. C'est parce que depuis le début, je leur dis, t'es capable de faire n'importe quoi par la puissance de Jésus. T'es capable de vraiment, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, récemment, parce que je fais ça avec mes petits-enfants aussi, alors j'avais le petit Luc, il a 4 ans maintenant, et il y a un couple de jours, il vient son daddy, parce que moi, je suis papa, lui, c'est daddy. Il vient son daddy, il dit, daddy! Il dit, quoi, mon fils? Il dit, je sais qu'est-ce que je veux faire avec ma vie. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il y a 4 ans seulement, il dit, je veux être un pasteur comme papa. Van Ethan, il vient juste d'avoir 2 ans. Et on vient juste de commencer une autre église dans la ville de Las Vegas, c'est sur la montagne de prière. Et le petit Van Ethan, après le culte, on était là, on parlait aux gens, tout à coup, il se lève, il avait même pas 2 ans le jour qu'il l'a fait. Il se lève comme ça, il commence à jouer le piano. Il a le microphone, il commence à chanter dans le microphone. Il n'y avait pas de mots. Qu'est-ce que tu vas être, Van Ethan? Un leader de louange qui va toucher le monde? Qu'est-ce que tu vas être, mon petit Van Ethan? Et souvent, je vais vous dire quelque chose qui est très, très rare, parce que la plupart des églises, mais je ne sais pas avec vous autres, mais les églises aux États-Unis sont pas mal, c'est plus un théâtre qu'un hôpital. C'est toute performance, tout doit être parfait. Et j'ai même été une église que tout le monde, je ne vais pas dire non parce que je ne veux pas critiquer, mais j'étais allé à cette église-là, je me suis assis dans le deuxième rang, et beaucoup de personnes, il y avait la personne à côté de moi avait l'agenda du service, et c'était par la minute. Pas de flexibilité, pas de mouvement de l'esprit. Ils sont très gentils ces gens-là, je les admire beaucoup, mais c'est un peu trop rigide. Oh, c'est ça le terme, merci. Rigide pour moi. Moi, je veux une église avec la vie. Liberté. Même, c'est quoi la France, c'est quoi? Liberté. Liberté! Les églises devraient être les plus libres. Mais souvent, les églises sont les plus rigides. Oh, c'est quelqu'un, grand sang, porté d'habits. Oh, le pasteur, pas de cravate. Oh, Jésus, est-ce qu'on va aller au ciel? Est-ce que c'est un rétrograde? Il porte pas de cravate, Seigneur. Oh! Non, vraiment, on est pas mal rigide, pas vous, mais les chrétiens que je connais à Las Vegas. Hein? Est-ce qu'on rit beaucoup à notre église? Est-ce qu'on rit durant les cultes ou c'est une performance? Moi, mes petits-enfants, ils ont tout droit de monter sur l'estrade, et souvent ils le font. Parce que durant la louange, nous autres, notre louange est 30 minutes à 45 minutes tous les cultes. Alors, j'ai souvent mes petits-enfants qui montent. Du début, ils montent, puis ils vont comme ça. Papa, papa, je le prends dans mes mains, microphone à la droite, et ils chantent. Parce que j'aime ça, chanter. Des fois, on prie pour les gens, et j'ai mes petits-enfants dans mes bras. Des fois, j'ai deux. Des fois, Denise a un des petits-enfants, moi j'ai l'autre. Et maintenant, parce que après qu'il commence à marcher, maintenant il veut tenir le microphone. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne un autre microphone. Alors, quand ils viennent, il y a un microphone comme ça, on donne ça à Van Ethan, le petit gars de, maintenant il y a deux. Alors, il était là 15 mois, 16 mois avec un microphone devant tout le monde. Puis, il est devant tout le monde. Et les gens disent, pourquoi tu fais ça? Parce que je veux leur montrer qu'ils peuvent faire n'importe quoi pour Jésus. Je veux pas te mettre de limites. Je veux que ce soit une place libre où les gens peuvent être transformés et touchés. On a une stratégie. On a planifié. On vit notre vision. C'est clair. Et votre vision vient de où? De votre ADN. Vous devez avoir l'ADN de votre église et ça devrait être clair, et vous devrez le communiquer à votre église, et tout le monde devrait savoir c'est quoi votre ADN. Amen. Vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est-tu la présence de Dieu? C'est-tu être à temps, à l'heure? Est-ce que c'est d'être parfait? Est-ce que c'est performance? C'est quoi vos valeurs comme église? Votre ADN. Alors, quand vous avez une vision, votre ADN devrait vous aider à atteindre la vision. Et parce que la vision va attirer les gens et la vision va repousser les gens. Et votre ADN va vous aider à tenir fidèle à cette vision-là. Alors, il faut décider. Et avant de partir aujourd'hui, j'aimerais vous demander de décrire votre ADN. Récemment, je l'ai fait parce que maintenant, je suis en transition pour 10 ans. Et j'ai réalisé que je n'avais pas clairement identifié notre ADN complètement. Oui, je prêchais sur ci, je fais beaucoup de thèmes à notre église. Je fais des sermons qui durent 4, 5, 6, 7, 8 semaines parce que je veux aller profond pour mon église. Je ne veux pas aller surface. Alors, j'y vais. On va plus de plus. Alors, j'ai pris les 8 principes qui sont importants pour moi et notre église, les 8 valeurs. Et j'ai prêché sur ça, j'ai expliqué, maintenant on va l'écrire, on va l'envoyer à tout le monde sur l'Internet, on va le mettre sur notre site d'Internet. Tout va être fait pour solidifier les traces du chemin pour se rendre à la vision. C'est en être restant fidèle à l'ADN. Alors, c'est quoi votre objectif? Vous avez votre vision? C'est quoi votre ADN? À la fin, on va répondre à ces questions-là, on ne va pas le faire maintenant. À la fin, on va donner à peu près 15 minutes pour des temps de discussion et j'aimerais que vous répondiez à ces questions-là dans les groupes et les deux qui suivaient. Mais je veux vite simplement souligner une couple de choses dans les notes ici. L'exemple biblique de planification. Ah, ça c'est très bon, merci mes amis. PowerPoint, j'aime les PowerPoint. Bon, on sait tous que Dieu a planifié, Noah a planifié, Néhémie l'a fait aussi. On connaît toutes ces histoires-là. David l'a fait aussi. Jésus l'a exprimé en parabole. On connaît le fait, on comprend le fait et on croit que planifier, c'est bien. Est-ce qu'on peut tout dire oui? Est-ce qu'on devrait avoir des stratégies et des plans?
Oui!
Pour se rendre où à notre vision? Pour aider le peuple de Dieu de non seulement attraper cette vision-là, mais à travailler ensemble comme équipe pour se joindre au but d'accomplir les visions pour la gloire de Dieu. Et ça doit être clair et le chemin doit être clair. C'est pour ça que j'aime tellement les trains ici en Europe. Oh, j'aime les trains. Il y avait l'équipe qui voulait que je prenne un avion de Paris à Genève. Je dis absolument pas. Mets-moi sur un des trains, parce que sur les trains, mes pieds sont à terre. Je peux dormir, je peux parler à mes amis, je peux marcher, je suis confortable, j'aime les trains. Même si c'est 4 heures, j'aime ça. Ça donne la chance d'écouter la musique et de prier. J'aime les trains parce que les trains, c'est chou. On sait exactement où on va, on est à terre, c'est simple. C'est ça que les gens veulent. C'est simple, non? C'est pas simple? Oui? OK. Changer l'avenir. Si on a une stratégie, ça devrait être de changer l'avenir. Et cette courbe de croissance a aidé beaucoup de personnes. Et j'aimerais juste prendre une couple de minutes juste pour donner des exemples. C'est ça que je fais. J'étais un prof à l'université. J'étais aussi un prof au collège. Et qu'est-ce que je disais à mes étudiants? Je ne vais pas vous lire le livre. Parce que si je lis les livres, je viens juste de vous communiquer que vous êtes stupide. Et vous n'êtes pas capable de lire. Vous êtes tous capables de lire. Vous êtes intelligent. Vous êtes les gens les plus intelligents ici en France. Donc, pour moi, de lire les livres, vous lire, ça me donne rien, puis ça vous donne rien. Alors, moi, je donne des exemples aux principes que j'aimerais souligner. Et peut-être j'ai des expériences qui pourraient communiquer. Et vous faites la même chose avec votre congrégation et vos leaders. En m'écoutant, vous devriez écrire vos histoires. Ah, ça, c'est une bonne chance que je peux compter l'histoire du fait que j'ai été marié depuis 95 ans et j'aime ma femme. Je peux compter l'histoire du temps que mon fils était rebelle. Et vous comptez vos histoires. Les gens aiment entendre vos histoires. Ils veulent savoir que t'as des tentations. Ils veulent savoir que t'as des choses qui te tracassent des fois. Ils veulent te connaître parce qu'ils veulent te suivre. Les gens disent, pourquoi tu comptes des histoires? Parce que je veux montrer que je suis humain. Même avec mes erreurs. J'étais dans une église et j'admirais beaucoup mon pasteur, mais il était parfait. Les cheveux parfaits, les habits parfaits. Il parlait avec la voix basse comme ça. Gloire à Dieu, bless God, alléluia. Moi, je ne pouvais pas faire ça. Vous m'écoutez? J'étais un vieux joueur de hockey qui a été transformé par la puissance de Dieu. J'aime ça rire, j'aime ça chanter. Je ne peux pas toujours être sérieux comme ça. Puis ce gars-là, il n'avait jamais avoué qu'il y avait des tentations ou des problèmes. Jamais, jamais, jamais. Dans toutes les années que je l'ai connu. Je l'admire, je le respecte, mais je ne peux pas être comme ça. Moi, il faut que je sois honnête avec tout le monde. Il faut que je sois, OK, c'est pas le goulet. Parce que moi, je suis gouverné par quoi? Par les vérités qui sont dans moi, le ADN spirituel que j'ai, je ne suis pas contrôlé par les autres. Quand tu es contrôlé par cette... Compass en français, c'est quoi? Où tu peux savoir la direction nord, sud, est, ouest? Boussole. Avez-vous votre boussole interne ou externe? Alors, cette courbe de croissance nous dit qu'une organisation, comme une église, grandit souvent très vite et après ça, il commence à descendre. Mais c'est à ce point-ci qu'on fait des changements. Alors, le grand C. Le grand C, c'est quoi? C'est changement. Et là, on va subir un temps de confusion. Et c'est ce temps de confusion parce que des changements créent le stress. Des changements créent la confusion. Même si les changements sont bien, vous allez voir, et c'est ça que Jean essaie de nous expliquer, c'est le courbe de changement nous dit qu'on doit anticiper le changement et la période de chaos. Pourquoi? Ça, c'est la période de chaos. Ça, c'est le temps de changer. C'est pas le temps de changer quand l'Église commence à descendre. C'est pas le temps de changer quand il y a tu vois que tout à coup, cette vitesse dans laquelle vous y allez, le progrès que vous avez, tout à coup, ça commence à descendre. Vous faites le changement là au lieu de là. Moi, je ne fais pas le changement dans 10 ans, quand j'aurai 63 ans. Je fais le changement maintenant, à 53. C'est très clair pour moi. Parce qu'on n'a pas commencé à descendre, on continue à grandir. Mais je vois, si je ne fais pas de changement, je peux commencer à avoir un temps où l'Église descendrait. Alors, il faut que je fasse les changements maintenant. Ça crée un peu de chaos. J'ai mis ma femme en charge d'une des propriétés qu'on a. J'ai mis un autre en charge d'un autre. Puis ma femme, était en charge de la plus grande propriété qu'on a. Le bâtiment qui, on peut asseoir 3000 personnes. Alors, c'est elle qui fait ça avec toute l'équipe. Et je l'ai faite pour à peu près un an et demi. C'est elle qui avait cette... on a une propriété ici, là, on a 4 maintenant. On a 2 autres qu'on n'a pas bâtis à l'entour de la ville de Las Vegas. La stratégie d'encercler la ville de Las Vegas pour que les gens, c'est seulement un voyage de 15 minutes n'importe où dans la ville. Alors, à Las Vegas, tu peux aller à ICLV, nord, sud, est, ouest. Ça prend 15 minutes au plus. Alors, c'est ça notre stratégie. On voulait gagner la ville de Las Vegas, donc il fallait être à plus qu'une place. Starbucks à Paris, c'est partout. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de Starbucks à Dijon. C'est pas dans leur stratégie. Alors, vous voyez des fois votre organisation, que ce soit un ministère ou une église, ça grandit et tout à coup, vous frappez des niveaux. Et si vous ne faites pas attention, vous ne voyez pas les changements que vous devriez faire, qu'est-ce qui va arriver? Ça va commencer à descendre. C'est comme ça que ça marche. C'est ça qu'ils ont dû faire. Alors, tu fais des changements ici avant que ça descende. Ça crée un chaos, ça crée des temps de changement et c'est pas facile. Il y a quelqu'un qui a dit, on ne change pas jusqu'à temps qu'on a de la peine, on a des douleurs. Quand j'étais un conseiller, c'est ça mon mentor m'a dit ça, il dit, Paul, la première chose que tu fais quand quelqu'un vient à ton office, tu vas mesurer le niveau de douleur dans leur vie. S'ils n'ont pas de douleur, ils ne vont pas changer. Parce que les gens aiment être confortables. Alors, pour déterminer si tu pourras les aider, s'ils sont vraiment, vraiment en douleur, c'est une bonne chose. Hein? T'es-tu fou? Non, je ne suis pas fou. J'ai appris de mon mentor. Et j'ai réalisé que quelqu'un qui était beaucoup en douleur, c'était probablement la personne qui aurait assez d'énergie pour mettre et faire des choses différentes. Moi, j'ai une définition de folie. La folie, c'est de faire la même chose, mais de s'attendre à de différents résultats. Si on a 2% de chrétiens ici, en France, c'est pas qu'on n'a pas bien fait, mais est-ce qu'on pense qu'on pourrait améliorer les résultats si on changeait la manière qu'on pense? Ça se peut-tu? Ça se peut? Qu'est-ce qui arriverait? J'ai vu une autre étude qui a été faite, c'est juste il y a une couple de semaines, 39% de gens en France croient en Dieu. 39%. Alors, premièrement, comme pasteur, moi, je viserais les 39% parce que je veux les gagner. En plus de ça, je viserais les 61% qui ne croient même pas en Dieu. Et ce sera deux stratégies. Un, de rejoindre les gens qui croient en Dieu. Deux, rejoindre les gens qui ne croient pas en Dieu du tout. Il y a deux stratégies. Il y aura deux approches pour les rejoindre. Amen? Alors, quand j'ai cette vision qui est claire, là, j'établis une stratégie. Et connaissant que souvent, il faut faire des changements, même avant que les autres le voient. Vous faites le changement, pas quand tout le monde dit, oh, on a besoin de faire des changements. Là, les gens sont frustrés. Et pourquoi que le pasteur n'a pas fait de changement? Pourquoi qu'on n'a pas fait ça? Non, vous le faites avant que vous, parce que vous êtes capable de voir en avant, parce que vous êtes les Moïse, vous êtes les Joachim, vous êtes les Néhémie, vous êtes les gens qui doivent voir parce que vous êtes des gens de prière et vous êtes dans la présence de Dieu tous les jours. Donc, vous devriez voir quand c'est le temps de faire ces changements-là pour créer un peu de chaos. Mais souvent, on veut pas de chaos, on veut que tout le monde nous aime. On veut stabilité. Pas moi. Moi, je veux changer. Moi, je veux créer un peu de mouvement dans le bateau. Je veux créer un peu de mouvement pour que les gens puissent prier, jeûner. Comme j'ai dit, j'ai à peu près 1000 personnes qui priaient pour cette conférence-là. 1000. Pourquoi? Parce que là, j'ai dit, on a besoin de faire des changements, on a besoin de prier. Ma femme a pris un des bâtiments. Maintenant, parce qu'elle a tellement bien fait dans un an et demi à peu près, maintenant, je lui ai donné toute l'administration. C'est elle qui fait tout. Moi, je peux concentrer sur les Indes, Mexique, l'Europe, etc., etc. Moi, je concentre sur l'Internet, je concentre sur les livres que j'écris. Comme le 30 jours, la seule raison que j'ai pu faire le 30 jours, je me suis dit, comment je peux vraiment aider quelqu'un? C'est en leur donnant 30 jours, comme leur coach. Je peux pas prêcher dans toutes les églises en France. Mais je peux faire quelque chose, leur dire, tiens, prends ça, deviens quelqu'un en santé et tu vas produire des fruits. Comme ça. C'est ça que ça se passe. Et quand tu regardes la stratégie ici de cette changer l'avenir, il faut anticiper le changement, il faut surmonter le chaos. Comment? Constamment évaluer, planifier, initier de bons changements. Pas des changements juste pour l'effet de créer un chaos. Des bons changements. Il faut l'évaluer. Il faut faire des changements. Récemment, j'ai fait des changements, mais je l'avais pas bien évalué. J'ai une réunion avec mes leaders juste avant de venir ici. J'ai un meeting avec l'équipe, les gens qui sont sur notre équipe et je leur ai dit quelque chose et j'ai réalisé que j'avais fait une erreur stratégique. Cette vérité-là que je voulais intégrer dans l'équipe, moi, ça faisait cinq mois que je pensais à ça et je priais. Mais j'ai seulement dit, on va le faire et ça commence demain. Puis j'ai dit, si vous avez des problèmes avec ça, viens me parler. Et les gens qui étaient le plus en santé m'ont parlé. Ma femme. Ma fille Christine, une autre personne sur notre équipe qui nous connaît depuis longtemps, une autre personne, et un autre jeune homme qui va dans les conseils de relations d'aide, et alors lui est en santé. Alors ils sont venus me voir, pasteur, je ne suis pas d'accord, ou j'ai une autre opinion. Alors finalement, j'ai réalisé que je n'avais pas raison. J'avais raison avec le changement, mais j'ai pas bien formé les gens, je ne les ai pas donné le temps de vraiment penser, j'ai poussé ça, je les ai fait manger quelque chose qui n'avait pas faim. Je l'ai cramé. Puis la semaine après, je suis venu voir l'équipe. J'ai dit, la semaine passée, j'ai fait une décision et j'ai démontré un très mauvais leadership. Et j'aimerais vous demander pardon. Est-ce que vous avez déjà fait ça avec votre équipe? Admettre que vous avez fait une erreur et demander pardon, ce n'était pas la première fois. je te dis, à la fin, je dis, je m'excuse, maintenant, on va bien faire. Je vous donne cette idée-là. Je sais pas que vous pensez, vous priez. Je dis, je vais être en France pour 2 semaines. Pensez à, par rapport à mes suggestions et on va revenir et en discuter plus. Et si c'est quelque chose qu'on vous croit dedans, on va tout le faire. Et on dit, ah, oh, wow, pasteur, merci. On n'a jamais vu quelqu'un qui admettrait les erreurs comme ça. Mais c'est plus facile d'admettre les erreurs que de couvrir. Vous êtes avec moi? Je comptais l'histoire à mes amis Eric et Muriel. Je comptais l'histoire d'une fois, j'étais à l'aéroport parce que je voyage beaucoup. J'étais à l'aéroport et souvent, je mêle pas des affaires des autres. Puis je parle pas beaucoup aux gens. Souvent, quand je suis sur l'avion, c'est le temps de prier, c'est le temps de relaxer, de dormir, juste pour me préparer pour la prochaine place. En tout cas, j'étais là, j'étais derrière quelqu'un, et la femme se tourne vers moi, elle me regarde, elle sourit, je le regarde, puis ses yeux étaient verts. Et j'ai dit, c'est-tu tes yeux? Tes yeux réels, voulant dire, en anglais, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent acheter des... C'est ça? Parce que c'était tellement... Oui, j'ai dit. Puis elle a dit, oui, c'est mes yeux. J'ai dit, t'as de vraiment beaux yeux. Et immédiatement, j'ai réalisé que j'avais fait quelque chose de stupide. J'avais donné un compliment physique. Parce que si tu donnes un compliment physique à une femme, ou bien elle rejette, ou bien elle pense que tu fais des avances. Alors, tout à coup, j'ai réalisé, oh, Goulet, non, t'auras pas dit ça. Et parce qu'elle a souri quand j'ai dit ça. Tu voyais que ses yeux ont éclaté même. Alors, oh, Jésus, je sais, je vais dans la... Alors, j'ai dit, je vais rentrer dans l'avion, je vais faire semblant de rien, parce que dans cet avion-là, c'est Southwest, tu peux t'asseoir n'importe où, c'est pas désigné. Alors, je suis allé m'asseoir, puis j'ai mis ma tête en bas comme ça. Littéralement, elle vient s'asseoir à côté de moi. Alors, j'ai décidé, la meilleure approche, c'était de témoigner de Jésus, parce que ça peut repousser n'importe quelle femme qui veut faire des avances. J'ai parlé de Jésus, j'ai parlé de ma femme, j'ai parlé de mes enfants, j'ai juste boum, 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 boum. Et le plus que je parlais, le plus qu'elle m'aimait. T'es quelqu'un de très sympathique, toi. Là, ça marchait pas, là. Alors j'ai dit, OK, Paul, qu'est-ce que tu vas faire? OK, tu vas faire semblant que tu vas dormir, OK. Alors J'ai dit, hey, j'ai beaucoup aimé se parler avec toi et maintenant, il faut que je me couche parce que j'ai un agenda pas mal plein quand je suis rendu à cette ville-là. Alors, pardon, je veux juste dormir. Elle a dit, ah, c'est bien. Alors, j'ai fait semblant de dormir. Menteur, Goulet. Là, je ferme mes yeux comme ça. OK. On atterrit, je cours chercher mes valises et j'attendais mes valises. Tout à coup, whoop! La femme était juste à côté de moi. Hey, ben où est-ce que tu vas maintenant? J'ai dit, où est-ce que j'allais? Et je vais en ville et je vais aller chercher ma voiture. Veux-tu que je te conduise en ville quelque part? Non, mais je vais louer une voiture. Mais veux-tu que je te conduise à la voiture? Là, j'étais comme Joseph. J'étais pas tout nu, mais je me sentais tout nu. J'ai dit, non, merci! J'ai vu ma valise, je l'ai pris, littéralement, j'ai couru. Ah! Immédiatement, j'ai appelé ma femme. Chérie, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, je vais te confesser quelque chose, là. Je veux te dire quelque chose, là. C'est quoi, Paul? C'est un peu dur à dire. Je l'ai dit, je suis content que je l'ai dit parce que je ne lui ai rien caché. Mais c'est bien d'admettre les erreurs. Parce que tu sais qu'est-ce qui arrive si on n'admet pas nos erreurs? Dans les temps de changement où on fait des décisions dures, ils ne vont pas te faire confiance. Parce qu'ils savent que tu caches tes choses. Les gens veulent cette honnêteté. Est-ce qu'on est d'accord? 3, surmonter les chaos. 4, applications. On a parlé de ça. Comment appliquer les changements? Mes amis, c'est très simple. Communiquer. Avec des chansons, communiquer avec des vidéos, communiquer avec l'Internet, communiquer avec des lettres. OK, est-ce qu'on peut aller à l'autre page? Parce qu'on est rendu maintenant aux pages 38. Oui, OK, on va sauter à l'autre page aussi. Ça fait très bien. Excellent. Excellente. Muchas gracias, mi amigo.
C'est ça, ok. Ah, là, génie. Vous allez voir, même si j'oublie quelque chose, ça ne va pas me laisser oublier. Les étapes d'une planification stratégique efficace. Un, prévoir de planifier. Ben, il me semble que c'est simple, mais ce n'est pas tellement simple, parce que c'était une de mes erreurs dans ma vie. J'étais un visionnaire qui prenait pas vraiment le temps de planifier et mettre des roues sur cette voiture de vision. Une vision, c'est comme une destination. Et planifier, c'est créer une voiture, un train, créer une machine pour t'aider à te rendre à cette vision-là. Mais il faut planifier. J'ai vu tellement de gens qui ont failli dans le ministère parce qu'ils n'ont pas planifié. J'ai eu tellement de gens qui ont perdu leur église parce qu'ils n'ont pas planifié. Je te garantis. Parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que vous faites. Pourquoi pasteur fait ça? Pourquoi qu'il voyage? Tu dis, hey, pasteur, j'ai eu le président de Oral Roberts, l'université. Vous avez entendu Oral Roberts? Le président de l'université, il m'appelle l'autre jour parce que il m'a demandé de prêcher à l'université. Il m'a dit, Paul, je veux que tu écris un autre livre. Je dis quoi? Écris un livre qui a comme titre Être un leader de mega church, mais jamais être là. Parce que je suis parti beaucoup. Il dit, comment tu peux gérer un mega church et tu n'es même pas là, Paul? Parce que je délègue très bien. Je peux te compter mes faiblesses, mais je peux compter les choses que je fais bien. Je suis très bon à déléguer, mais je ne suis pas très bon à planifier. Alors, j'ai entouré de moi une équipe qui aime les détails. Moi, j'aime pas les détails. Moi, je complique pas ma vie, là. Moi, je suis un peintre qui peint comme ça. Mais les gens de mon équipe, oh, pasteur, et ça, et ci, et ça, et. Je fais jamais mon agenda. En France, en Europe aussi, c'est Yannick. Il est en Suisse. Je dis toujours, parle-moi pas de date, parle à Yannick. Parce que, hey, je suis pas capable. Il y a des gens qui disent, il y a quelqu'un qui me dit dernièrement, mais moi, j'ai appris dans ma vie de regarder mes faiblesses et de travailler très fort sur mes faiblesses. Et c'est le but de ma vie. J'ai dit, c'est complètement déprimant. Tu fais l'opposé. C'est quoi tes forces? C'est quoi tes dons? C'est quoi tes passions? C'est quoi ta vision? Travaille sur ça et entoure-toi avec des gens qui peuvent te complimenter et non te répéter. Compléter. OK, numéro un, planifier. Numéro deux, déterminer votre objectif principal. Aïe, je peux frapper tellement dur ce concept-là de c'est quoi votre objectif? De bâtir une église, d'implanter des églises, de doubler votre église. C'est quoi vos visions? Il faut être si clair. Objectif principal comme leader. Troisièmement, évaluer. J'aime les deux questions sur le numéro 2. Pourquoi existons-nous et qu'essayons-nous d'accomplir? Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que j'ai écrit les 7 étapes de vie d'une chrétienne épanouie. Parce que, OK, c'est quoi mon objectif principal? Qu'est-ce que je veux faire avec ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? J'ai 53 ans. Où est-ce que je vais maintenant? Si le Seigneur me donne 10 autres années ou 20 autres années ou 30, où est-ce que je veux aller? Et est-ce que je peux aider notre organisation de continuer à grandir et d'être cette personne-là qui ne bâtit pas son royaume, mais bâtit le royaume de Jésus? Il faut penser comme ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Évaluer. Les angles d'évaluation. À l'intérieur de l'organisation, je dois dire, OK, que faites-vous d'auprès de ceux qui travaillent avec vous? Alors, toutes les semaines, tous les mercredis, on développe les leaders et on a une réunion 8h30 tous les mercredis matin et on les développe. Tous les deux semaines, j'ai les leaders, j'ai à peu près 7 départements stratégiques de notre église. J'ai Média, j'ai Dream Center, le centre de rêve en centre-ville, j'ai le campus, South Campus, j'ai la montagne de prière et le centre de prière. J'ai toutes les choses stratégiques pour nous rendre. J'ai le comité de mission, le concept apostolique d'établir de l'Église mondiale. Alors, j'ai après 7 départements qui gouvernent tout et nous aident à atteindre les visions. Vous avez combien de gens? C'est pas des, c'est pas des, C'est des généraux que vous avez besoin. C'est regarder votre ministère et vous évaluer votre ministère, vous évaluer les gens qui travaillent pour vous et vous développer votre équipe. Moi, je connais des églises, ils n'ont jamais de réunion de prière avec l'équipe de bénévoles. Ils n'ont jamais de meeting de formation. Jamais, jamais, jamais. Le pasteur, il est toujours en train d'aider les autres et pas à développer les leaders. C'est une grande erreur dans le corps du Christ. Peut-être pas ici en France, mais aux États-Unis. Deuxièmement, à l'extérieur de l'organisation, que faites-vous d'après quelqu'un qui ne connaît pas votre stratégie? Donc, on revient à communication. Est-ce que les gens peuvent dire ICLV, c'est quoi? Top chrétien, c'est quoi? L'église ici, Philadelphia, c'est quoi? Quelqu'un du dehors, qu'est-ce qu'il dirait de ton ministère? Est-ce que c'est clair? Troisièmement, perspective actuelle. À quoi ressemble votre situation au stade où vous êtes à présent? Actuelle. C'est maintenant. Oui, vous pouvez avoir une vision d'avoir un ministère et établir 10 000 églises. Mais vous êtes qui maintenant? C'est tellement drôle, aux États-Unis, les gens aiment les titres. Peut-être pas aussi en France, mais aux États-Unis, je te le dis. Et je rencontre des gens des fois et je m'appelle l'apôtre Jérôme Content. Hey, bonjour Jérôme, gloire à Dieu. Quel honneur de te rencontrer. Ou c'est cardinal, ou c'est apôtre, ou c'est évêque, ou c'est prophète, bishop. Bonjour mon frère, comment ça va? Je serre la main. Gloire à Dieu. Hey, parle-moi un peu de votre ministère, parce que si, moi je me dis, si c'est un apôtre, il doit être quelqu'un d'incroyable. Il doit avoir un ministère immense. Il doit avoir des églises à travers le monde. Alors, au lieu de dire, hey, t'es pas vraiment un apôtre, je dis, hey, conte-moi ton histoire. J'aimerais entendre ton histoire, parce que dans ma tête, je dis, j'ai jamais entendu parler de ce gars-là. Les gens disent, ben, t'es-tu un apôtre? Non. Moi, je veux pas d'autres titres. Tu peux m'appeler Paul. Il y a d'autres noms que les gens m'ont appelé beaucoup de choses dans ma vie. Mais Paul, c'est bien. Mais mon église m'appelle pasteur parce qu'il me reconnaît comme un papa spirituel. Alors, moi c'est bien. J'ai accepté ça. Mais je veux pas d'autres titres. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, une grande organisation m'a envoyé, on reconnaît à cause de travers le monde qu'on veut t'appeler maintenant tu es l'apôtre Paul Goulet. J'ai dit, non. J'ai pas besoin de titres. Mais il y a des gens, c'est très important pour eux. Alors souvent, ces gens-là, ils ont une petite église, mais je ne suis pas contre une petite église. Mais si tu as une petite église, tu n'es pas un apôtre. Tu es un pasteur. Soyez fiers du fait que vous êtes un pasteur. Vous appelez. Puis moi, il y a des gens qui sont appelés à aller à des petites communautés et être une pasteur d'une petite église, mais une petite église qui a une grande influence. Amen. Il n'y a pas de condamnation pour petit ou grand. C'est d'être la personne que tu es appelé, la vision que le Seigneur t'a donnée et la mission que tu as clarifiée. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, où est-ce que vous êtes maintenant? Créez pas une fantaisie. Quatrièmement, perspective future. À quoi ressemblera votre situation dans quelques mois ou années? Quelle tendance se dessine? Aïe, 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 aïe. Une révélation que j'ai reçue, Evelyne. J'aime beaucoup ce nom-là, Evelyne. C'est beau. Vous venez d'où?
Mont-la-Jolie.
Mont-la-Jolie. Mont-la-Jolie. Qu'est-ce que je te dis, ma soeur, là? J'entends pas. On regarde... Evelyne, c'est pour ça que j'aime ton nom. Mais... c'est quelque chose qui m'a été révélé. Moïse pouvait pas rentrer dans la terre promise, non seulement parce qu'il a désobéi. Oui, absolument, je sais la théologie, on a raison. Mais l'autre raison, il n'a jamais été dans la terre promise. Il y a seulement deux personnes qui étaient dans la terre promise. C'est qui les deux personnes? C'est ça? On peut pas amener les gens où on n'a pas été. On peut pas amener les gens où on n'a pas été. Et Martin Luther King, vous connaissez ça, un des héros de ma vie aux États-Unis, il a dit, j'ai été à la montagne, je l'ai vu. une société avec pas de préjugés, avec égalité. Il a vu cette vision-là. Est-ce que vous avez déjà été là? Au moins en prière, au moins en vision, au moins en image, au moins en révélation. Est-ce que vous le voyez tellement clair? Vous dites à tout le monde, venez l'église, suivez-moi. Ou vous montez devant l'église et vous dites, ben, je sais pas vraiment je veux pas offenser personne. On peut faire des grimaces et on peut faire des excuses où on peut dire vraiment, j'ai parlé avec mon équipe, j'ai parlé avec les anciens, j'ai parlé avec les diacres. On est tous d'accord que le Seigneur nous a donné la direction. C'est temps d'acheter. C'est temps de bâtir. C'est temps de commencer cette ministère-là. C'est temps de foncer. Récemment, on a eu la vision d'acheter un bâtiment à côté de la montagne de prière. Et on était tous d'accord, tous mes anciens excepté pour un. Et tous mes diacres, je veux dire, excepté pour un, et tous mes anciens étaient d'accord. Et à la fin, j'ai finalement dit à celui qui n'était pas d'accord, j'ai dit, mon frère, tu sais, ou bien nous autres, on a toutes pas raison, et toi t'as raison, ou bien nous autres, on a toutes raison, et toi t'as pas raison. Est-ce que tu peux être assez humble pour admettre ça? Parce que tout le monde, tous les diacres, tous les anciens, on croit, et moi, on croit tous, c'est la volonté de Dieu de l'acheter. Le prix, c'était 7 millions.2, et on a négocié jusqu'à 3,2 millions. Tu devrais voir le bâtiment, c'est nickel, c'est top. Et maintenant, on a une chambre haute et une autre congrégation. Déjà, on a 150, dans juste une couple de mois, on a 150 personnes qui vont à l'église sur la montagne de prière. On a déjà des gens qui prient là maintenant. Déjà, le fruit du montagne de prière a été prouvé. Mais cet homme-là, il s'est fâché contre moi et l'Église. Il est parti avec tout son argent. Il y a beaucoup d'argent. Mais il voulait nous manipuler. Je sais que ça n'arrive pas ici en France, que les gens essaient de manipuler le pasteur. Ou ça arrive des fois d'où je viens. Puis avec son argent, il y avait un autre homme, une fois, il me dit, « Arrête de prêcher sur la sainteté. Arrête de dire ça. Arrête de prêcher pour vivre la vie sainte. » Je dis, « Mon frère, il criait après moi. J'étais dehors après le culte. » Littéralement, il criait, « Arrête de prêcher sur ça. Arrête de prêcher. Ça, c'est la loi. » Je dis, « C'est pas la loi, c'est la sainteté. Je gagne pas mon ciel, mais je plaire Jésus avec ma vie. » Je veux avoir un mariage incroyable. Je veux faire des bonnes décisions. Je veux pas abuser moralement. Je veux être un homme de Dieu. Alors, c'est ça que je vais prêcher. Il a pris son argent et il est parti de l'église. Il a divorcé sa femme. Sa femme est morte parce qu'elle a rentré avec des drogues prescrites ou non prescrites. Et finalement, elle est morte à 40 ans. C'était une des meilleures amies de ma femme. Parce que j'ai averti le monsieur. Parce que lui, il voulait des excuses pour laisser sa femme. J'ai dit, puis il m'a dit, je laisse ma femme. J'ai dit, hey, moi, je peux pas dire oui à ça parce que ta femme veut changer. Elle veut de l'aide. Alors, si tu veux séparer temporairement jusqu'à temps qu'elle ait un peu d'aide, alors, OK, je te supporte. Mais si tu laisses ta femme de 40 ans pour échanger ta femme pour deux femmes de 20 ans, je suis pas d'accord. Hein, c'est ça qui est arrivé. Mais c'est sa femme, il courait après les femmes de 20 ans, il a pris tout son argent, il est parti de l'église. Mais je ne suis pas gouverné par ça, je suis gouverné par ça, puis après ça, on établit une stratégie que le Seigneur nous donne à travers une équipe. À travers une équipe qui a refiné les idées, développé les idées et les approuver, les évaluer. Alors, quatrièmement, prioriser les besoins. Lister les objectifs de l'équipe par ordre d'importance et de priorité. Si les besoins ne sont pas des priorités, les résultats sont laissés au hasard. Ça, c'est une autre chose avec les personnes que j'ai vues souvent. Sont toujours en réaction. « Oh, il y a quelqu'un de malade ici, il y a quelqu'un de malade là. OK, on chasse puis ça. » Vraiment, c'est comme des petits souris qui courent. Puis c'est pas parce qu'on est méchant. C'est parce qu'on aime Dieu et on aime les gens. Donc, on essaie de prendre soin de éteindre tous les feux et des fois même allumer des feux. Mais la plupart du temps, c'est éteindre les feux. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est dire, OK, j'ai cette vision de Dieu. Mon équipe est d'accord. On a fait le chemin ensemble. On a prié ensemble. On va prioriser les étapes qu'on doit faire. Et c'est ça que j'ai fait avec ma famille. Je vous ai conté l'histoire de ma famille. C'est pour ça que j'ai écrit le livre qui n'a plus, même en France, il n'a plus de livre. Il faudra qu'on fasse une deuxième édition. Parce que ça, c'était un des livres les plus populaires que j'ai jamais écrit. C'est parti. C'est première édition complètement vendue. Ils disent, pasteur, il n'y a plus en France. Alors, deuxième édition s'en vient. Pourquoi? Parce que la famille, c'est la chose la plus négligée en France. une des choses, peut-être primaire. Alors, mon ADN, c'était de prioriser ma relation avec Dieu, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, l'Église. Cinquième, poser les bonnes questions. Il faut poser les bonnes questions. Aïe, 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 aïe. Puis il liste plusieurs. Hein? C'est pas mal clair le point qui est là. Mais il faut avoir des gens sur ton équipe qui n'ont pas peur de demander des questions. Et je dis à tout le monde dans mon église, à n'importe quand, tu peux me demander des questions. Mais souvent, vous savez que les gens disent, « Oh, je sais que c'est une question probablement stupide, mais pasteur... » Et je leur dis toujours, « Il n'y a pas de question stupide. Je vais te bénir parce que tu me demandes une question. Tu as le courage de demander. » Et c'est ça, la porte ouverte. Ce concept d'être une équipe qui est tellement confiant, mais on est aussi confiant de prendre des feedbacks et des évaluations des autres gens. Sixièmement, fixer, et on demande ça aussi en équipe, donne-nous vos impressions. On veut continuer à développer l'équipe, on veut devenir des meilleurs leaders. Et si vous nous donnez vos avis, on veut s'améliorer, on veut faire ça de mieux. On est tous des bénévoles ici. Alors, il n'y a personne ici qui est payé pour ça. Ça, c'est... On le fait parce qu'on vous aime et on sent appelé de développer des leaders. Sixièmement, fixer des objectifs spécifiques par écrit, réaliste, personnel, spécifique, mesurable et avec conviction. Je peux le répéter 50 fois celui-là. 7. Communiquer et clarifier. Et c'est drôle, j'avais pas remarqué qu'avec ces deux termes-là, il voulait vraiment dire quelque chose de spécifique. Et c'est communiquer, c'est partager la vision de l'objectif à atteindre. Clarifier, c'est montrer quelles sont les étapes à suivre. Vous voyez la différence? On communique pour dire on va là, mais on clarifie pour dire ça, c'est les étapes pour se rendre. C'est ça qui m'a touché quand j'ai lu ça encore pour peut-être la 50e fois. Ah oui, là je vois. Communiquer, c'est on communique la vision. Clarifier, c'est dire on va se rendre là comme si. Comme j'ai dit, on a cette vision-là de 10 ans. J'avais une vision pour mes enfants et mes petits-enfants. Communiquer, communiquer, communiquer. Et clarifier. Huitième, identifier les éventuels obstacles. Ouf. Ça, c'est dur pour moi. Il faut que j'admette. C'est une de mes faiblesses. J'en ai plusieurs. Mais si je suis tellement positif, je suis quelqu'un qui voit la vie en rose. Non, c'est vrai. Je chante la chanson à cause des raisons. Je vois la vie en rose. Moi, je... Hein? Oui, c'est... Non, c'est vrai. Demande à ma femme, regarde... Demande à mon équipe. Quand je vois des visions, hein? Oui, je porte la chemise rose aussi. On voit la vie en rose, hein? Moi, je le vois en rose. Parce qu'à l'âge de 15 ans, mon frère m'a donné un livre. Parce que Maxwell, il dit quelque chose que j'ai toujours cru. Montre-moi les livres que tu lis et les gens avec qui tu es associé et je vais te dire ta destinée dans 5 ans. Je peux prédire où tu vas aller par les livres que tu lis et les associations que tu as. Le fait que vous êtes ici maintenant, vous êtes comme moi. Moi, je cherche des conférences comme ça parce que je veux me mettre avec des aigles. Si tu tiens avec tes poulets, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas toujours être à terre. Les poulets, tout ce qu'ils voient, c'est ta terre. Moi, je veux voler comme des aigles. Alors, les gens avec qui je me tiens, c'est les Reinhard Bonnke, c'est un de mes amis. Je peux vous dire la liste des amis. Sur mon téléphone, j'ai John Bevere, c'est tous mes amis. C'est parce que je veux me tenir avec les gens qui changent le monde. Parce que là, ils me provoquent. Oh, OK. Là, je peux grandir encore plus. Je veux pas me mettre avec des gens qui disent, oh, tout le monde fait ça. Il n'y a pas de grande église. Il n'y a pas de gros. On va pas faire, on peut pas changer la France. La francophonie exagère pas, là, pas. Moi, je veux des gens qui disent, oui, on va y aller. Mon ami Charles-Louis Elisabeth m'a dit, je veux aller en Martinique et je veux amener équipe en Martinique. Je veux former des leaders en Martinique. J'ai pas dit, oh, t'es-tu fou? Tu te prends pour un nom? J'ai dit, oh, vas-y, Charles-Louis, Elisabeth. Vas-y, mon frère. Gloire à Dieu. C'est ça qu'on veut. On veut cet esprit de positif. Mais j'ai, des fois, j'ai fait l'erreur de ne pas voir les vrais obstacles. Et je n'ai pas coûté le prix. Et j'ai appris par mes erreurs. Vous comprenez? Je ne veux pas vous attrister avec toutes mes faiblesses, mais ce serait une grande. Et c'est pour ça que j'ai une bonne équipe autour de moi et je leur donne la permission de demander n'importe quoi. 9. Ayez un système ouvert de planification. C'est ce dont j'ai mentionné avant. C'est un système ouvert. J'ai pas peur de critiques. J'ai pas peur de questions. Je ne cache rien. Et c'est pas pour moi, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, demande-moi n'importe quoi. Même, j'établis cette vérité-là quand j'ai des classes. Toutes les gens qui sont nouveaux à notre église, j'ai une classe qui s'appelle Pastor's Class. Oh, pardon, chef. C'est la page 41 que vous n'avez pas. Hein? Qui manque? Alors, ayez un système ouvert de planification. Je vais vous le donner. Parce qu'il y a 6 choses que je dois vous donner ici sur la page 41 que vous n'avez pas. Ayez un système ouvert de planification. Vous l'avez? Ça veut dire que les gens peuvent nous demander n'importe quelle question. C'est ça, un système ouvert de planification. C'est numéro 9. Dans la classe de pasteur, à la fin, je communique. J'ai 4 semaines avec eux. Première, je leur parle de les 4 fondations de notre église. Première semaine, REACH. Ça veut dire, notre vision comme église, c'est de rejoindre les gens pour Jésus. Deuxièmement, réconcilier. Notre deuxième but, c'est d'aider les gens à être en santé émotionnellement, spirituellement et relation. Troisième but, c'est de raise. Ça veut dire soulever les gens, créer des leaders à travers l'église. Et quatrièmement, c'était de les relâcher et de les envoyer en ministère dans l'église et à travers le monde. Alors, après chaque classe, à la fin de chaque classe, je leur donne 15 minutes de questions. N'importe quoi. Donc, j'établis la porte ouverte du début. Je leur dis, vous pouvez me demander n'importe quoi. Personnel, église, histoire de notre église, pourquoi je fais ci, pourquoi je... N'importe quoi, allez-y. Des questions théologiques, des questions personnelles, tu devrais voir les questions que j'ai reçues. Mais ça développe avec les gens nouveaux. Ah, finalement, je peux aller quelque part où la porte est ouverte. Je peux demander. Si tu vas dans un système de dysfonction, tout le monde a des questions, mais personne ne les dit. J'ai rentré dans plusieurs églises dysfonctionnelles où tu ne pouvais pas même demander une question au pasteur. Ça, c'est pas une église en santé. OK. Emploi du temps. Ça fait partie de... on continue avec numéro 10. Ça, c'était numéro 9. Et numéro 10, c'est gérer et affecter vos ressources. Gérer et affecter vos ressources. C'est vraiment le temps, mes amis, avant qu'on termine, juste à vraiment dire, OK, c'est quoi mes ressources maintenant? Il y a une fois, la femme, il avait perdu son mari, elle avait perdu son argent, les gens venaient pour ses 2 enfants. Te rappelles-tu, Louis? Louis, les gens venaient pour les enfants comme dette, pour payer les dettes. Je prends tes 2 enfants, te rappelles-tu de ça? Oui. Et dans deux rois, je pense que c'est chapitre 4. Puis elle vient voir Élisée, elle dit, il compte l'histoire, puis Élisée dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et elle a dit, j'ai rien. Première réponse, j'ai rien. C'est ça qu'on sent qu'on a des fois, rien. Mais après ça, elle dit, non, il me reste un peu d'huile. C'était quoi l'huile? C'était comme dans ce temps-là, il n'y avait pas de Bible, alors qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait l'huile de son mari. Son mari, c'était un des fils des prophètes. C'est un prophète. Et si tu regardes, il y avait l'huile d'onction pour les gens. Pour les rois, pour le temps de décision, pour la guérison. Alors, c'est tout ce qu'elle avait. Tout le restant des choses était vendu. Alors, c'est là, il dit, OK, va chercher des vases, prends l'huile et commence à remplir les vases. Une petite chose d'huile et des grandes vases comme ça. Vous savez le restant du soir. Mes amis français, mes chers amis, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Qu'est-ce que vous avez déjà? Quelque chose qui peut toucher la France, toucher la francophonie? Je vous garantis, vous avez déjà des choses que vous ne savez même pas, et c'est ça qui va faire le changement. Même si c'est petit, même si les gens pourraient rire de toi, vous avez quelque chose de gérer et affecter vos ressources. Regardez pas qu'est-ce que vous n'avez pas. Regardez qu'est-ce que vous avez. 11. Piloter et corriger dans la direction de votre vision. Piloter et corriger dans la direction de votre vision. Voulant dire, j'étais récemment dans une église où le pasteur, il est progressif, il est incroyable, et je l'aime tellement. Mais sur son équipe, il y a quelqu'un qui, durant des temps de prière, je ne sais pas votre théologie personnelle, et moi ça ne me fait rien de votre passé en point de vue de théologie, mais dans cette église-là, il croit dans des dons. Puis moi, je crois dans les dons. Vous n'avez pas besoin de croire dans les dons, vous pouvez, mais je crois. Mais dans cette église-là, le pasteur, c'est très professionnel, c'est bien fait, c'est bien géré, mais il y a un gars sur son équipe, et à chaque fois que quelqu'un vient pour la prière, au lieu de simplement prier, mon frère, c'est quoi ton nom?
Benito.
Benito! Ça veut dire béni, n'est-ce pas?
Amen.
Gloire à Dieu. Benito! Ton dernier nom, c'est quoi?
Nguba Isuku.
Wow! Je ne peux même pas le dire. Tu viens d'où d'origine?
Du Gabon.
Gabon! Gloire à Dieu! En tout cas, dans son église, au lieu de dire bonjour, comment ça va, mon ami? C'est quoi ton nom? J'aimerais prier pour toi. Y a-t-il quelque chose sur ton cœur que je peux viser mon temps de prière? Au lieu, qu'est-ce que ce bonhomme-là, il fait dans l'église? Il va comme ça. Même avec un théologie qui croit dans des dons, ça c'est pas acceptable. C'est même pas biblique. Et alors j'ai dit au pasteur, pourquoi tu laisses ce gars-là? Puis même c'est moi qui l'ai dit d'Esther. Il a fait peur. Pauvre femme était là, pleurait. Je veux Jésus. Tout à coup, vient le bonhomme. Ah! Hey, tu l'as fait peur. C'est pas même consistant avec ta vision. D'être une place où les gens peuvent aller à l'estrade pour prier, un temps de prière très, très sympathique. Et le fait qu'un de tous les trois femmes ont été abusées sexuellement en France et aux États-Unis, il faut faire attention. Alors moi, dans notre église, les hommes prient pour les hommes et les femmes prient pour les femmes. Et quand je prie pour une femme, je fais ça. Je dis, viens ici, ma soeur, viens mettre tes mains à l'entour de Suzanne ici. Elle a besoin de toi. Alors, je mets là, des fois je prie, des fois je laisse, je vois quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Parce que les gens ont été abusés. Alors, si je vois là, je trouve, c'est même pas biblique. Alors, c'est pas consistant. Alors, il faut corriger les gens. J'aime ça en Apocalypse chapitre 2. C'est tellement bon. Vous avez déjà lu ça, verset 1 à 4, verset 1. L'Éternel dit à l'église d'Éphèse, verset 2, vous faites ça de bien, ça, 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 ça. 8 choses. Il a commencé avec l'affirmation. Et après ça, il dit, mais il y a une chose que j'aime pas. Alors, moi j'appelle ça un sandwich de correction. Est-ce qu'on peut te le dire ensemble? Un sandwich de correction. Un pita de correction. Un kebab, comme j'ai mangé hier soir. Je commence toujours avec, « Hey, mon frère Philippe, j'aimerais simplement te dire merci pour toute ton aide. Hein. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Mais mon frère, à chaque fois que tu pries pour moi, tu deviens tellement excité, tu craches sur moi. Tu sais combien je t'aime, Philippe. » Alors, regardez chapitre 2, verset 1 à 4. J'ai pas le temps parce qu'on va terminer maintenant. Mais regarde, il commence avec l'affirmation, il corrige, puis là, il dit encore, « Mais je t'apprécie beaucoup. Je t'aime beaucoup, mais c'est une chose que j'aime pas. C'est-tu correct? » Non, c'est pas la vérité. Je plaisante avec mon ami parce que je l'aime tellement. Mais je commence toujours avec quelque chose de positif. Je fais la confrontation, et après ça, je suis avec direction. Et Philippe, qu'est-ce que je te demande? Si tu veux prier pour moi, simplement, tourne-toi à droite. Calme-toi un petit peu. Ou même, il fallait à l'église, il fallait que je dis au pasteur, est-ce que je peux faire un temps de formation pour les gens qui prient pour les gens? Il dit, oui, absolument. Alors, j'ai pris tout le groupe de l'équipe, là, les bénévoles, les pasteurs, toute la gang. J'ai fait un temps de formation avec eux autres. Et une des premières choses, j'ai dit, premièrement, ne mangez pas du fromage qui pue avant l'église. Je vous admire que vous êtes capable de manger ce fromage-là, mais si tu pries pour moi et tu as mangé du fromage comme ça, là, je ne vais pas penser à Dieu. Je vais penser à ton haleine. Deuxième-moi, faites-moi pas peur. Prie pour moi, sois délicat. Tu sais, demande-moi mon nom. Je suis une personne, j'ai un nom, j'ai pas un numéro. Demande-moi mon nom, puis demande-moi qu'est-ce que sur lequel tu peux prier. T'sais. Prends du temps, parle à moi. C'est des temps doux à la strate. C'est des temps dans la présence de Dieu avec un homme de Dieu ou femme de Dieu qui peut nous aider. Alors, j'ai donné des corrections. Et après, j'ai dit, et j'aimerais vous remercier pour le fait que vous êtes venus ici pour la formation. Vous êtes tellement des gens sympathiques ici. Je vous aime tellement. OK, on va vous voir ce soir. J'ai corrigé, j'ai affirmé, j'ai corrigé, j'ai donné des directions. Et après ça, j'ai affirmé encore. Je l'ai dit, je fais toujours ça avec mon équipe. Toujours ça avec mon équipe. Parce qu'il faut piloter et corriger et pas le laisser à quelqu'un d'autre. Et finalement, étudier les résultats. C'est le temps d'évaluation. OK. On comprend tout ça. Gloire à Dieu. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Étudier, numéro 12, les résultats. Vous mettez en équipe et dites, « Hey, on a fait un programme pour la communauté ici. On a nourri les gens qui étaient pauvres. On a les habillés. Est-ce que ça a bien été la semaine passée? » On va évaluer notre progrès. OK, on sait que c'est notre vision maintenant. Est-ce qu'on a mieux fait ce dimanche-ci à vraiment faire un culte qui nous dirige dans la bonne direction? Est-ce qu'on fait bien maintenant? C'est le temps d'évaluation. Amen. Et même, je sais que Philippe, à la fin, je pense qu'il y a une évaluation que vous pouvez remplir et nous donner vos avis parce qu'on veut cette évaluation. On vit qu'est-ce qu'on prêche. Et qu'est-ce qu'on instruit aux autres? On veut vos impressions. On veut changer la France. Et la manière qu'on change la France, c'est en formant des leaders. Il y a des gens qui disent, non, c'est pas en formant des leaders, c'est simplement un réveil. Sans leader, il n'y a pas de réveil. Et sans leader, on ne peut pas gérer, même s'il nous donne un réveil, on ne peut pas le gérer. Amen. On va terminer avec des questions. Je vais simplement vous donner les directions. Et avant de donner des directions, on va retourner à la page 37. Mais avant que je le fasse, parce que je passe le microphone à mon ami Philippe, je vais vous dire des choses personnelles avant que je parte. Je vous aime. C'est vrai? Merci. C'est quoi ton prénom? Cyril. Quel beau nom, mon frère. Tu viens d'où, Cyril?
La Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire, gloire à Dieu. Cyril. C'est comme un auteur, hein? Cyril. C'est un beau nom, ça. Mais je peux vous dire que je vous aime. Je peux vous dire le fait que je suis ici, j'ai beaucoup de passion parce que je sais que changer des pays, ça prend des leaders. Mais il faut prendre des leaders qui veulent grandir, qui veulent continuer à penser. Regardez Apocalypse chapitre 2 et 3. Sept églises ont été confrontées. Cinq de ces églises-là, l'Esprit a dit, repent, il faut repentir. Alors le verbe c'est repente, repente-toi. Ça veut dire penser dans une façon différente. J'ai deux livres que je lis maintenant à part de ces choses-là et je prépare le prochain 30 jours de formation émotionnelle. Je lis deux livres sur la neurologie. J'ai deux livres de neurologues chrétiens qui parlent. J'ai appris récemment que ça prend 4 jours pour enlever un mensonge dans ta tête. On croit des choses qui sont pas vraies. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert que littéralement ils peuvent tracer l'effet d'un mensonge ou un pensée négatif, ils appellent ça même des idées toxiques. Parce que une pensée, comme le fait que je pensais que mon père m'aimait pas, ça déclenchait des produits chimiques entre mes neurones. Vous savez que les neurones sont pas attachés. Ils ont découvert récemment qu'il y a des centaines de milliers de neurones dans notre cerveau, mais ils ont découvert qu'on a 40 000 à l'entour de notre cœur. Pour des années, quand je disais, comme un homme pense dans son cœur, tel il, j'ai pensé que c'était pas littéral. Je pensais qu'il parlait de cerveau. Alors je disais, oh, c'est pas littéral, il voulait dire tête, il y a du cœur. Mais maintenant, ils ont découvert qu'on a 40 000 connexions neurologiques ici. Et les pensées déclenchent des produits chimiques à l'entour de notre cœur. Et maintenant, tu sais qu'est-ce qu'ils disent les neurologues? Ils disent qu'on a deux cerveaux. Comme un homme pense dans son cœur, tel il est. On pense dans notre cœur? Oui, absolument. 40 000 fois. Et ça déclenche des produits chimiques. Et si c'est des idées positives et bibliques et vraies, ça déclenche des produits qui donnent la santé au corps. C'est pour ça que la parole dit, tes paroles donnent à quoi? La vie ou la mort? Je vais vous démontrer cette vérité-là avant qu'on prie. et on discute. Regarde ton ami maintenant et dites-leur qu'ils sont formidables. Dites-leur pourquoi tu les apprécies. Dites-leur pourquoi vous les aimez. Maintenant, vas-y. Dis à ton ami pourquoi vous les aimez, pourquoi vous les appréciez et pourquoi ils sont incroyables. Allez-y, allez-y. Regardez qu'est-ce qui est arrivé. J'ai vu des sourires. J'ai entendu, regarde, elle sourit là. Vous souriez. Et même, je vous ai regardé, c'est Sylvie et Rachel. Vous êtes tournés l'un vers l'autre. Ça, c'est la forme de communication la meilleure. Vous êtes tournés. J'ai vu des sourires. Vous riez ensemble. J'ai vu mon frère juste là. J'ai vu Eric et sa femme. Ils sont tenus la main. Ils riaient ensemble. Ils se donnaient des caresses. J'ai vu ici Jean-Luc et... C'est quoi ton prénom?
Pierre.
Jean-Luc et Pierre. Ils sont dit des choses. Tout à coup, ils commencent à rire. Ils sont tenus dans les bras. Ils sont donnés des caresses. On a changé l'atmosphère ici avec quoi? 15 secondes de parole. C'était pas long. 30 secondes peut-être. Et on a changé l'atmosphère. Vous avez vu? C'est quoi? Parole donne la vie. Pensée déclenche des produits chimiques dans notre tête qui nous fait rire, sourire. On veut toucher. J'ai même vu un homme et sa femme, ils se caressaient. Oui, je suis jaloux. Je vais chez moi demain. OK, on va terminer avec ça. On va prendre 5 minutes, peut-être 10 au plus. Je vais laisser à mon ami Philippe. Moi, je vais aller m'asseoir avec les livres un peu. Je peux dédier des livres, si vous voulez. Juste m'asseoir, dire bonjour aux gens. Et après ça, je vais aller à mon hôtel. Je vais prendre ma douche. Je vais préparer pour partir demain matin tôt pour voir ma petite coco. J'ai dit, chérie. Je vous aime beaucoup. J'ai l'espoir. Le fait que vous êtes ici aussi, aujourd'hui, ça me donne plus d'espoir pour la France que jamais. On va le faire ensemble. Récemment, j'étais à Montréal. J'ai commencé ça à Montréal aussi, en français. C'est tellement drôle parce que j'ai dit, je vous lance un défi. Non seulement, donne-moi 3 ans. On va marcher ensemble pour 3 ans. On va aller à travers de cette stratégie que Dieu a donnée à Jean. On va suivre cette stratégie-là que je crois et je forme mes propres leaders avec ça. Et on va faire cette voyage ensemble pour 3 ans et on va voir la fin. Et j'ai vu à Dijon qu'est-ce qui est arrivé. Les choses éclatent. Les ministères éclatent. On se dévoue l'un à l'autre et à cette stratégie pour 3 ans. Et j'ai fait le défi à Montréal. Je dis, qui va me donner 3 ans? On va être ensemble pour 3 ans et on va voir qu'est-ce que le Seigneur va faire. À la fin, j'ai été complètement surpris parce que tout le monde souriait, riait. Il dit, si Paul est capable de le faire, puis lui est occupé, moi, je suis capable de donner 3 ans. Tout à coup, 2 bonhommes viennent avant. C'était 2 prêtres catholiques. Il dit, on a entendu qu'est-ce que tu as dit. Ça te fait-tu quelque chose? On est des prêtres catholiques. Ça te fait-tu quelque chose si on te donne 3 ans pour nous former comme des leaders? Je les ai saisis. Dans mes bras, ça me tente de pleurer. J'ai serré dans mes bras, j'ai dit, oui, mes frères, je suis content, vous êtes ici. Ces 2 prêtres catholiques ont vu le besoin, les hommes et les femmes de Dieu, qui ont la parole. Wow! Je pense qu'on... Puis si, je lance un 2e défi, j'ai vraiment senti ça pour Paris, amène 2 autres personnes que tu veux amener dans le voyage avec toi. Amène-les. Si vous avez des enfants, dites à leurs enfants, hey, est-ce que tu viendrais avec papa? On va juste étudier avec un ami, 2 amis, un du Québec, un de Las Vegas, et on va étudier ensemble, on va grandir ensemble. Viens avec ton père, viens avec ta mère. Peut-être si tu as des bénévoles à ton église que tu sont stratégiques, invite-les. Je vous encourage vraiment. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, va jamais dans le voyage tout seul. Amène des gens avec toi. C'est pour ça que Angelo est ici, et Caroline et Joël, c'est mes amis. Yannick qui était ici, d'habitude, il était avec moi. Alors j'ai des gens, j'amène toujours des gens avec moi. Puis c'est souvent l'autre génération. Joël, il est beaucoup plus jeune que moi. Je pense qu'il a 13 ans. Il a 36 ans. Mais c'est une autre génération. J'ai 53. Alors c'est à moi de verser dans lui et à lui de verser dans les autres parce que déjà, il y a une sagesse incroyable. Il y a une église, un mystère incroyable. Alors, c'est un joie d'être avec lui, être partenaire avec lui. Co-partenaire. On est amis. Philippe aussi, quel leader incroyable. C'est un joie d'être avec d'autres personnes. Alors, je me donne à vous pour 3 ans. On va faire le voyage ensemble. Amen. Parce qu'on s'aime. Et on aime le Seigneur. Et j'ai pas peur de vous dire que je vous aime. Merci. Regarde quelqu'un, dites-le, oh, je t'aime aussi. Je t'aime aussi. J'ai marié ma femme, on était dans l'église catholique parce que la seule façon que son père voulait me donner une permission de le marier, c'était dans l'église catholique. Mais le prêtre, il était un père né de nouveau. Et il m'a donné la permission de chanter quand ma femme descendait l'allée.